BFM Business, l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, Erwan Maurice.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot. On s'intéresse aujourd'hui au recrutement dans l'hôtellerie de luxe avec notre DRH de la semaine, Valérie Nioul, du Negresco, l'hôtel emblématique de la promenade des Anglais à Nice. Dans 10 minutes, nous répondons aussi à une question d'auditeur. On va appeler aujourd'hui Valérie Memounayat pour une question sur le cumul du statut d'auto-entrepreneur lorsqu'on est salarié. Dans notre focus, on parlera des salariés boomerang, ceux qui ont décidé de partir pour se mettre à leur compte ou travailler dans une autre boîte et qui ont finalement rappelé l'ancien patron pour rejoindre les effectifs de leur ancienne entreprise. Vous verrez ça dans notre reportage. Sans oublier, en fin d'émission, la carte blanche de Stéphane Moriou qui nous parle du fossé entre l'identité et la réputation en entreprise. C'est parti, on vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, la DRH de la semaine.
Bonjour Valérie Nioul.
Bonjour Erwan.
Merci d'être dans Happy Boulot. Vous êtes la DRH du Negresco. On a la chance de vous avoir aujourd'hui sur BFM Business. Le Negresco, je le rappelle, hôtel emblématique de la promenade des Anglais à Nice. Vous venez de fêter les 110 ans de l'établissement. Le Negresco, c'est quasiment bientôt plus même de 200 personnes en CDI. C'est le poids de l'histoire aussi. Hein. On va retrouver 600 œuvres d'art dans ce monument.
Hein. 6000.
6000, pardon, j'ai oublié un zéro. 6000 œuvres d'art au Negresco. On parle de recrutement dans l'hôtellerie haut de gamme avec vous, Valérie Nioul. Pas de crise de l'attractivité, contrairement au reste de l'industrie. Quand on parle, nous, sur BFM Business, de l'hôtellerie, de la restauration, on parle pas du Negresco en réalité.
Je dois reconnaître que nous avons la chance d'avoir une identité très forte au Negresco, comme vous venez de le dire. Mmh. On vient de fêter nos 110 ans. 110 ans d'histoire d'une des dernières maisons françaises indépendantes. Et c'est ça aujourd'hui que les candidats recherchent aussi, c'est cette atmosphère familiale, cette ambiance particulière.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on a la chance de ne pas souffrir des difficultés de recrutement.
Donc ce sont les candidats qui vous recherchent et non l'inverse, comme c'est le cas dans beaucoup d'établissements.
On recherche toujours des candidats, mais nous avons énormément de candidatures spontanées tout au long de l'année.
Qu'est-ce qui les attire typiquement quand vous allez avoir des entretiens avec eux? Quelles sont leurs motivations principales?
Alors, ils savent que c'est une maison indépendante. Et ceux qui viennent et qui poussent la porte de cette maison savent ce qu'ils vont y trouver, c'est-à-dire vraiment une atmosphère. C'est très connu dans le secteur de l'hôtellerie que nous sommes vraiment une maison familiale avec tout ce que ça implique. Donc il y a vraiment une bienveillance. Quand on pousse la porte de l'hôtel, on ressent déjà cette chaleur. Les clients le sentent, mais également les collaborateurs.
C'est quelque chose, c'est une marque aussi qui fait qu'on a envie d'ouvrir la porte.
C'est une marque, enfin, nous avons vraiment une identité très forte qui a été initiée par Jeanne Augier, qui a racheté l'hôtel en 1957 et qui a fait de l'établissement ce qu'il est aujourd'hui.
Vous continuez à recruter d'ailleurs aujourd'hui parce qu'on monte en gamme encore au Negresco avec l'ouverture d'un spa prochainement. Il va falloir là encore du personnel supplémentaire.
Au mois de janvier, effectivement, nous ouvrons notre spa. Nous sommes en finalisation du recrutement. Nous avons quasiment tous nos recrutements finalisés parce que quand on a annoncé l'année dernière que nous allions ouvrir un spa, mais dans la semaine qui suivait, nous avions pléthore de candidatures de personnes qui n'attendaient que ça, justement, que le Negresco ouvre enfin son spa.
Donc vous avez eu l'embarras du choix, finalement, pour sélectionner les candidats, les pépites.
Tout à fait.
Qu'il vous fallait. Une fois que les candidats ne sont plus des candidats, mais des salariés, comment est-ce qu'on leur donne l'envie au quotidien de rester, d'évoluer, de progresser?
Alors, en fait, il faut dire que les jeunes générations, aujourd'hui, elles ont envie d'évoluer.
Mmh, oui,
de toute
sinon,
façon.
Elles ne restent pas.
Exactement. Après, nous, ce qu'il y a, c'est qu'on met en avant nos talents et les histoires de nos talents. Bah, récemment, notre directrice de l'hébergement a fêté ses 41 ans de maison.
Oui, c'est de plus en plus rare, ça.
Voilà. Et nous avons quand même plusieurs personnes qui peuvent témoigner aujourd'hui du parcours qu'elles ont eu au Negresco. Mmh. Et c'est ça que nous mettons en avant, la transmission et les parcours et permettre à chacun en fait de se dire d'où que je vienne et quel que soit mon parcours, je peux évoluer au sein du Negresco.
Côté RH, plus particulièrement, c'est quoi? C'est la formation, c'est donner la capacité à quelqu'un qui peut-être n'a pas tous les codes, toutes les compétences au départ, de les acquérir, de le fidéliser, de lui donner envie de rester et puis finalement de pouvoir compter sur lui aussi sur plusieurs années dans l'entreprise.
Alors en fait, nous personnalisons vraiment l'accompagnement et le développement des collaborateurs. En fait, nous avons essayé de transposer ce que nous faisons auprès des clients, c'est-à-dire la création d'un rêve sur mesure pour enchanter nos hôtes, on essaie de faire la même chose pour les salariés. Et j'ai la chance d'avoir deux collaboratrices qui sont vraiment exceptionnelles, qui sont d'une bienveillance incroyable, à l'écoute des demandes et des envies en fait des collaborateurs.
Ces établissements, souvent de l'extérieur, quand on n'a pas l'habitude aussi de fréquenter, côtoyer ce monde, font peur, même quand on veut y travailler, hein, pas quand on veut y venir en tant que client. Mais est-ce que vous encouragez aussi l'insertion des personnes qui sont peut-être éloignées de ces milieux-là à travers la formation, l'apprentissage? Est-ce qu'il y a des stages au Negresco?
Alors oui, bien sûr, on reçoit énormément de stagiaires et aussi également des apprentis. Nous sommes en contact avec beaucoup d'écoles hôtelières, mais pas que, également des écoles de commerce, de management dans le luxe.
Et vous avez la possibilité de transformer l'essai ensuite pour les apprentis qui souhaitent rester dans l'établissement?
C'est le but. Hein. Là, récemment, nous avons recruté en CDI une concierge qui était en apprentissage juste avant. Et je pense que le plus bel exemple que nous avons, c'est notre chef sommelier qui est entré, en fait, il y a quelques années en apprentissage chez nous. Donc, il y a vraiment de vraies perspectives d'évolution au sein de l'Unegresco.
Un bébé Negresco, hein, finalement.
C'est une maison, c'est une famille et, au cours duquel on peut évoluer et se développer. Ouais.
Est-ce que vous sensibilisez aussi à la différence entre le rêve, parce que c'est vrai que c'est un monde, les palaces, les hôtels de luxe qu'on idéalise, on a l'image du prestige que ça renvoie aussi et qui est réel, mais il y a aussi la réalité, c'est la rigueur, l'exigence, la performance, la manière de se tenir. C'est des choses qui sont très importantes dans un établissement comme le vôtre.
Oui, après je dirais que travailler au Negresco, c'est un rêve qui devient réalité pour beaucoup. Alors oui, c'est de l'exigence, mais les candidats qui travaillent dans l'hôtellerie de luxe savent qu'il y a de l'exigence, de la rigueur. Mais il y a la passion du partage, la passion de l'excellence qui fait qu'on accepte cette rigueur et cette exigence.
Il nous reste une minute, Valérie Nioul, et vous connaissez l'exercice dans cette émission. Je vais sortir ma petite boîte, la boîte du DRH. Voilà, la boîte à questions, en tout cas, phrase à compléter que je vous pose juste à côté. Je vais vous laisser tirer un premier papier, donc une phrase à compléter pour savoir un peu mieux quel DRH vous êtes finalement.
Alors, dans ma boîte, j'organise un team building. Ça ressemble à...
Ouais, alors ça peut être fictif, hein, mais ça serait quoi?
Autour du sport.
Très bien.
Voilà.
Pourquoi le sport?
Parce qu'il y a beaucoup de sportifs au sein du Negresco.
Oui.
Nous avons récemment organisé le tournoi des étoilés à Nice, parce que nous avions gagné la précédente édition, donc qui regroupe tout un tas de restaurants étoilés avec une équipe de foot. Voilà, donc il s'avère que nous avons beaucoup de sportifs. Récemment, nous avons également eu pas mal d'employés qui ont fait le semi-marathon sur la promenade. Donc voilà, autour du sport.
Ah, donc c'est dynamique aussi au Negresco.
C'est très dynamique,
au Negresco,
oui.
Et c'est une manière de souder aussi les équipes.
Exactement. Ouais. Exactement.
Très bien. Allez, on tire un dernier papier pour essayer de mieux vous connaître.
Dans ma boîte, les managers sont bienveillants.
Oui, ça c'est un critère de recrutement.
Vraiment un critère.
Vous recrutez des managers ou les personnes que vous recrutez précédemment peuvent devenir managers au Negresco?
Il y a les deux.
Il y a les deux.
Mais il y a beaucoup de personnes qui deviennent managers et on les accompagne en ce sens, et notamment à travers la bienveillance et l'accompagnement des équipes.
Et juste en quelques mots, c'est quoi pour vous un manager bienveillant?
Un manager bienveillant, c'est un manager qui est à l'écoute de ses collaborateurs, qui sait effectivement être exigeant et dur quand il le faut, mais qui sait les accompagner vers l'excellence que nous attendons de la part de nos collaborateurs.
Merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Valérie Nioul, DRH du Negresco. Merci infiniment.
Merci à Juan de m'avoir reçu.
Avec plaisir. Merci d'avoir été dans Happy Boulot. Tout de suite, on appelle notre experte pour répondre à vos questions.
Happy Boulot, coup de fil à l'expert.
Et on joint tout de suite Valérie Memounayat, associée fondatrice de HMS Avocat. Pour répondre à cette question, Valérie, je souhaiterais m'inscrire comme auto-entrepreneur et rester en fonction dans mon job actuel qui n'a rien à voir avec l'activité de mon employeur. Ai-je le droit de le faire, Valérie ?
Oui, absolument, vous avez le droit de le faire dans certaines limites. Alors ce qui est important dans la question que vous posez, c'est de bien indiquer que l'activité d'auto-entrepreneur qui serait la vôtre n'a rien à voir avec les fonctions salariées que vous avez chez votre employeur actuel. Parce qu'effectivement, on n'a pas le droit évidemment de faire de la concurrence déloyale et d'aller dans le même secteur d'activité lorsqu'on a un contrat de travail donné. Il faut toutefois vérifier dans votre contrat de travail que vous n'avez pas une clause d'exclusivité qui vous empêche toute activité, quelle qu'elle soit. Et il faut également veiller à ce que, dans le cadre de votre auto-entreprise, vous n'utilisiez pas les moyens de l'employeur, ce qu'il met à votre disposition, et que vous ne travailliez à votre projet personnel qu'en dehors, évidemment, des heures de travail qui sont les vôtres. C'est une vraie réflexion aujourd'hui, parce que ça peut vous permettre d'anticiper sur une reconversion. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité, chez l'employeur chez lequel vous êtes, de prendre un congé individuel de formation ou essayer de projeter sur un projet futur, tout en coordonnant avec les fonctions que vous exercez dans l'entreprise qui vous emploie actuellement. Voilà.
Merci beaucoup Valérie Memounayad pour ces précisions dans Happy Boulot. Je rappelle que vous êtes associée fondatrice de HMS Avocat. Vous continuez, vous qui nous écoutez, à nous écrire, à poser vos questions à nos experts. Happy Boulot @BFM Business. On répond à vos questions, aux questions que vous nous adressez toutes les semaines dans cette émission.
Happy Boulot, le focus RH.
Vous aussi, vous avez peut-être dans votre entourage des personnes qui, pendant la crise sanitaire du Covid, ont décidé de changer de vie, quitter leur entreprise, changer d'employeur ou se mettre à leur compte et qui, finalement, sont retournés frapper à la porte de leur ancien patron pour les réintégrer dans leur boîte. C'est ce qu'on appelle les salariés boomerang. On en parle avec nos deux invités que j'accueille sur le champ. Marie-Sophie Zambeau, bienvenue.
Merci.
Vous êtes la fondatrice de Rethink RH, cabinet de conseil spécialisé en recrutement et marque employeur. Et face à vous, Franck Morel.
Bonjour.
Franck, avocat associé au cabinet Flichy-Granger, ancien conseiller social d'Edouard Philippe. On en parle avec vous juste après ce reportage que je vous propose de regarder si vous êtes en télévision avec nous, de nous écouter si vous êtes à la radio. Reportage de Léa Rojo qui est allée à la rencontre de salariés qui se font réembaucher.
En à peine 3 ans, un tiers des salariés français sont revenus dans une entreprise pour laquelle ils avaient déjà travaillé. Thibert de Boisezon, salarié boomerang chez Mega International et aujourd'hui directeur France de la société, fait partie de ceux qui ont tout quitté pour une nouvelle opportunité.
Mais ça faisait 5 ans que je faisais du conseil, que je souhaitais faire un métier un peu plus commercial. Et il n'y avait pas d'opportunité à ce moment-là. Et donc j'avais le choix entre attendre une opportunité ou partir.
Alors que de nombreux Français ont ressenti le besoin de changer de métier, notamment pendant la pandémie, retourner chez son ancien employeur est une alternative désormais envisagée par 6 cadres sur 10, mais sous certaines conditions, selon une étude du cabinet Robert Walters. Chez Mega International, 10% des collaborateurs sont des salariés boomerang. Thibert de Boisezon, lui, est revenu pour le poste qu'il souhaitait.
Quelques mois après finalement être parti, j'ai la direction des ressources humaines qui m'a rappelé, qui m'a dit qu'un poste s'était ouvert, un poste que je souhaitais, auquel j'aurais aimé postuler quand j'étais encore là, il s'est ouvert et ils m'ont tout de suite rappelé. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs autres collègues qui m'ont rappelé pour me convaincre de revenir assez rapidement, donc ils m'ont pas beaucoup laissé le choix.
D'après l'étude de la société UKG, 28% des salariés boomerang regrettent leurs anciens collègues, puis vient le regret de leur mission, de leur salaire et de la politique de congé de l'entreprise. En charge du pôle RH du groupe Turenne, Julie Récalde souligne le gain de temps pour l'entreprise.
Il connaît la culture de l'entreprise, il connaît l'ambiance dans les équipes, il sait quel est le rythme de travail. Donc on s'assure presque un perfect match. Ils vont vraiment avoir un regard neuf qui peut pour le coup être source de performance pour l'entreprise.
Et pour 8 recruteurs sur 10, c'est un argument solide pour réembaucher un ancien collaborateur.
Voilà ce reportage de Léa Arojo. Franck Morel, ça vous inspire quoi là, ce qu'on vient d'entendre ?
C'est très intéressant parce que ça va à rebours de tendances lourdes qu'on pensait exister dans le marché du travail français. Je vais vous citer un chiffre par exemple, la France est après l'Italie le pays où l'ancienneté en emploi est la plus longue. Mais l'OCDE nous dit à peu près 11 ans. Ce qui est assez important, c'est 12 ans en Italie. Et donc, on pourrait se dire, c'est compliqué, on change pas d'entreprise, on reste dans la même entreprise. Mais on voit bien que, avec notamment la crise Covid, un certain nombre de choses qu'on pensait immuables, qu'on pensait très difficiles à changer, ont volé en éclats. On l'a vu, par exemple, avec le télétravail. Le recours au télétravail a été multiplié de manière massive. Et on le voit aussi avec, c'est vrai aussi, l'amélioration en matière de chômage, qui change un petit peu le rapport de force entre les entreprises et les salariés, et notamment ceux qui peuvent avoir des profils assez recherchés sur le marché du travail, eh bien ça aboutit à un certain nombre d'évolutions. Alors, ces évolutions, elles se matérialisent aussi à travers un certain nombre de règles qui encadrent la relation de travail. On a rendu plus compliquées les ruptures conventionnelles, on a légiféré sur l'abandon de poste, pour faire en sorte qu'il y ait une présomption de démission. Donc on n'est plus à une époque où effectivement on voulait avoir un certain nombre de règles pour protéger les acteurs. Là, on est sur un certain nombre de règles qui tiennent compte de cette amélioration du marché du travail et donc du fait que les choses ne sont pas pareilles. Alors, les entreprises s'adaptent. Elles vont s'adapter. On l'a vu dans le reportage, parce que ça peut être, dans un certain nombre de cas, mal vécu, hein, une forme de trahison, hein, le fait que quelqu'un est parti, quitter l'entreprise. Mais on voit bien qu'à travers ce nouveau regard sur le parcours professionnel, les choses changent. Je vais vous citer un dernier chiffre. L'Institut Montaigne a fait une enquête récemment sur le rapport des Français au travail. Et on avait presque 40% des répondants qui indiquait vouloir changer d'entreprise dans les deux ans.
C'est beaucoup.
C'est énorme.
Ouais, c'est beaucoup. Marie-Sophie Zambeau, comment vous regardez ça, vous, le Covid, ce qui s'est passé aussi, la manière dont les vies changent, font que on a voulu partir, aller voir ailleurs, prendre l'air, et puis finalement, on le disait dans le reportage, en trois ans, un tiers des salariés qui avaient quitté leur entreprise sont revenus.
Alors, sur recrutement boomerang, en fait, c'est pas forcément nouveau. Moi, j'avais écrit sur ce sujet-là début 2020 en disant déjà, il y a un frémissement, il y a quelque chose qui se passe. On voit qu'il y a une tendance. Là, clairement, vous avez dit avec le Covid, ça a volé en éclats. Sous l'impulsion de la crise sanitaire, sous l'impulsion d'un nouveau rapport au travail, clairement entériné aussi par la crise du Covid, et du fait des difficultés du recrutement sur le marché du travail, ça a vraiment augmenté. Il y a une augmentation des salariés boomerang qui a augmenté de 36%. Ces trois dernières années, ça c'est une enquête LinkedIn, donc 36%, c'est un taux historique d'augmentation de ces recrutements boomerang. Donc ça va dans le bon sens, il y a les mentalités qui bougent, parce qu'effectivement pendant de nombreuses années, ceux qui osaient démissionner, c'était des personnes qui manquaient de loyauté, c'était des traîtres. Donc il y a eu un fort mouvement lié à la crise, parce que les gens se sont interrogés sur leur travail et leurs attentes, mais en fait, il y a 60% aujourd'hui de personnes qui ont franchi le cap, qui ont démissionné pendant cette crise et qui regrettent aujourd'hui.
C'est beaucoup.
C'est énorme. Ouais. Et c'était une étude au niveau européen du KG. Et en fait, on est vraiment les Français ceux qui ont le plus de regrets par rapport à ça. Ouais. Alors, le point positif, c'est que c'est une manne conséquente de collaborateurs qui sont déçus de leur choix et qui sont prêts éventuellement à la retoquer à la porte de leur employeur.
Il y a un autre sujet que je trouve intéressant dans ce qui a été décrit au début de cette émission. C'est les perspectives que les entreprises donnent. Peut-être qu'elles n'en donnent pas assez. On s'en va et on l'entendait dans ce reportage. La RH m'a rappelé. Elle m'a proposé le poste que je voulais. C'est-à-dire, il y a une prise de conscience aussi du côté de l'employeur.
Absolument, il y a une prise de conscience du côté de l'employeur. Ça met en avant, en lumière, de manière encore plus forte, un certain nombre d'attentes exprimées de manière croissante par les plus jeunes d'entre nous, notamment sur le marché du travail.
Qui sont pressés aussi, de plus en plus.
D'avoir du sens, quelque chose qui est très fort.
Et de moins en moins, on veut rester 4-5 ans sur le même poste.
Voilà, on parlait des bullshit jobs, vous voyez, la nécessité de donner du sens, de faire quelque chose d'intéressant, de faire quelque chose d'utile à la société. C'est quelque chose qui revient de plus en plus. Et quand on est déçu, entre guillemets, par les attentes que l'on peut avoir envers ce sens, eh bien, on n'hésite pas à partir. Moi, je voudrais mettre aussi en avant un autre aspect qui me paraît important à travers les chiffres très forts que vous avez cités sur le regret exprimé ou le fait que 28%, je crois, des personnes dans ce cas-là regrettent leurs collègues, etc.
C'est ça.
Il y a la notion aussi de responsabilisation des actifs qui me paraît assez importante. On a voulu, il y a quelques années, à travers, par exemple, la mise en place du compte personnel de formation, responsabiliser les actifs sur le fait de recourir à la formation pour modeler eux-mêmes, entre guillemets, leur parcours professionnel et gérer eux-mêmes leur parcours professionnel. On a voulu, en élargissant les possibilités d'accès à l'assurance chômage pour les démissionnaires, aller dans le même sens. Mais le corollaire de la responsabilisation, eh bien, c'est que dans un certain nombre de cas, ça fonctionne. Dans d'autres cas, ça ne marche pas. Et donc, on lève un certain nombre de tabous en ce sens, et tous les acteurs sont confrontés à cette levée des tabous. Ça veut dire les entreprises qui vont pardonner aux traîtres, entre guillemets, par rapport à ce que nous disions tout à l'heure, mais aussi dans le bon sens, qui vont être en capacité de se dire, mais c'est ce que disait tout à l'heure la personne qui était interviewée, j'ai pas de ticket d'entrée sur la connaissance de la culture de l'entreprise, j'ai pas de ticket d'entrée sur les process, donc ça peut être intéressant quand même.
Ouais. Sur la formation, Marie-Sophie Zambeau, c'est quelque chose qui manque aussi dans les entreprises, on a besoin d'être formé, on a besoin de montrer que l'employeur aussi veut nous faire monter en compétences pour rester, ça éviterait justement ce phénomène de salarié boomerang.
En tout cas, c'est une attente très très forte de la part des collaborateurs d'avoir accès à davantage de formation et surtout de pouvoir évoluer. Le sujet de la mobilité interne est crucial. Et d'ailleurs, moi qui suis plus particulièrement spécialisée sur recrutement, je le dis depuis des années, c'est prégnant et ça continue à m'agacer. Souvent, le premier réflexe est de diffuser une offre à l'extérieur, d'aller chercher à l'extérieur des ressources. Souvent. Au lieu de
chercher les talents,
de piocher parmi ses propres collaborateurs et ses propres talents. Ça crée des frustrations. C'est tout particulièrement français. Ça crée des frustrations en interne chez les collaborateurs qui donc vont.
Pourquoi on n'a pas pensé à moi?
Dans un mouvement d'humeur, éventuellement aussi démissionner.
Pour citer de nouveau l'étude de Montaigne que j'évoquais tout à l'heure, vous avez 55%, ce qui est énorme, des salariés qui souhaitent évoluer en interne dans leur entreprise dans les deux prochaines années.
Donc c'est
dans le sens de ce que vous venez d'indiquer.
Mais donc il y a un travail à faire aussi du côté de l'employeur.
Donc évidemment, il y a un travail à faire du côté de la cartographie de ces ressources internes et de la mobilisation de ces ressources internes, effectivement, avant d'aller chercher à l'extérieur.
Une minute pour conclure. Le bilan qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas si mal dans les entreprises quand on voit ce phénomène, que ceux qui ont essayé de partir et qui finalement reviennent, soit parce qu'on les rappelle, soit parce qu'ils se rendent compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est ça le bilan qu'on doit faire?
C'est un bilan forcément nuancé, parce que parfois l'herbe va être quand même plus verte,
et parfois
elle ne va pas l'être. C'est un bilan, je dirais, empirique. C'est-à-dire, c'est un bilan qui consiste à dire que il faut garder une certaine forme de souplesse et favoriser la mobilité du marché du travail.
Marie-Sophie Zambeau, d'accord avec ça? Quel constat vous
partagez? Le constat, c'est que ça prend de l'ampleur, les mentalités changent et que moi, casquette recrutement, c'est positif, le recrutement boomerang. Les gens, le taux d'acquisition et de recrutement est moindre. L'onboarding, la prise de poste est facilitée. Ah oui. Ce sont des personnes qui reviennent normalement nourries d'expériences différentes avec des compétences autres dont l'entreprise va bénéficier et vont pouvoir penser out of the box. Et puis, ça envoie un signal plutôt positif sur l'état d'esprit de l'organisation et la marque employeur.
C'était parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Marie-Sophie Zambeau, fondatrice de Rethink RH, et Franck Morel, avocat associé au cabinet Flichy Granger. Merci beaucoup d'avoir été dans Happy Boulot. C'est l'heure de la carte blanche.
Happy Boulot, carte blanche.
Et aujourd'hui, c'est Stéphane Moriou. Stéphane qui nous rappelle qu'il est clair qu'il existe une grande différence entre notre identité au travail et notre réputation.
J'entends de-ci, de-là, qu'il faudrait toujours être soi-même, qu'il ne faudrait pas se laisser influencer par les opinions que les autres ont de nous. Alors, je voudrais vous rappeler ces simples définitions. Votre identité est la personne que vous croyez être. Votre réputation est la personne que les autres savent que vous êtes. Demandez à un manager de décrire son style de management. Il vous dira régulièrement qu'il est participatif, délégatif, facilitant, que sa porte est toujours ouverte. Interrogez maintenant son équipe. Elle vous confirmera que la porte de son bureau est toujours ouverte, mais qu'il n'est jamais dedans. Chez certains managers ou collaborateurs, il existe un fossé incommensurable entre l'identité et la réputation. Dans une vie en société, notre réputation a bien plus d'impact sur notre vie que ce que nous croyons. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de ce que les autres savent de vous, je vous invite à profiter de cette fin d'année pour aller leur demander.
Happy Boulot, le labo RH.
En 4 minutes aujourd'hui avec vous, Vincent Barra, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre dans Happy Boulot, Vincent. Vous êtes le fondateur d'Albert. Vous aidez les RH à mieux anticiper leurs besoins en recrutement. Comment ça marche?
Alors exactement, en fait, avec Albert, le problème auquel on répond, c'est qu'il y a 9 entreprises sur 10 qui n'ont aucune idée de combien de personnes elles auront besoin dans les 3 prochaines années.
On manque de perspective.
On manque complètement de perspective, on n'a pas cette compétence, cette capacité à planifier sur les années qui viennent. Et c'est un peu étonnant parce qu'on est capable de le faire en finance, on est capable de le faire dans les ventes, on est capable de le faire avec les revenus en général, mais l'actif le plus important d'entreprise, les hommes et les femmes, ça, on ne sait pas bien le faire.
Ouais, il manque une brique que vous, en fait, vous amenez dans les entreprises.
Exactement, en fait. C'est pas si évident que ça, en réalité. Ça paraît simple de savoir compter les gens, mais les hommes et les femmes, c'est pas un actif comme les autres. Et donc, c'est une difficulté que ressentent absolument toutes les entreprises. C'est où se trouve la donnée pour que je puisse me projeter à un horizon stratégique et savoir de combien de personnes je dois disposer.
Alors, quelles applications, là, hyper concrètes? Donnez-nous des exemples de ce que vous allez proposer.
Alors, de manière hyper concrète, la vocation de ce qu'on appelle le Strategic Workforce Planning, donc c'est ce à quoi sert Albert, ça va être d'être capable d'anticiper de combien de personnes je vais avoir besoin pour le recrutement, pour derrière envoyer des mobilités, faire de la formation, potentiellement prévenir des plans sociaux et les empêcher. en anticipant suffisamment et en lissant la charge au fil du temps.
Mais grâce à quoi ? Il y a de l'intelligence artificielle derrière. Sur quoi vous vous basez pour faire ces projections ?
Ces projections partent de la donnée de l'entreprise en
donc
premier lieu.
Donc il faut quand même que la donnée déjà ait, que l'entreprise ait la donnée disponible pour vous la fournir et vous l'analysez.
Mais elle est là. Ouais. Elle est là, c'est juste qu'elle est éparpillée. Et la première vertu de notre plateforme, c'est de consolider cette donnée, de la récupérer peu importe où elle se trouve, et derrière de simuler tous les départs de l'entreprise, les départs en retraite, les départs naturels, etc.
À la clé, j'imagine, c'est un gain de temps, un gain d'argent pour l'employeur.
Ben, quand vous y pensez, les dépenses en personnel, c'est 60% des dépenses d'une entreprise. Donc ne pas piloter ça, c'est extrêmement coûteux et on risque de recruter trop tard avec des gens qui n'ont pas les bonnes compétences ou bien avec, justement, j'évoquais les plans sociaux tout à l'heure, on en déclenche alors qu'on n'a pas besoin. Donc les gains à la clé sont énormes, entre 5 et 10% de la masse salariale de manière annuelle qui peut être sauvée grâce à une bonne planification.
Bon, ça coûte combien ? Ça va dépendre de si vous facturez à une TPE, à un grand groupe. Enfin, il y a des forfaits, comment ça se passe ?
Alors, on travaille aujourd'hui surtout avec des ETI et des grands groupes. Et donc, c'est uniquement lié au nombre de collaborateurs qui sont présents dans la plateforme et pas au nombre d'utilisateurs. Pour fonctionner, la planification, elle doit être collaborative. Et donc, elle doit impliquer des gens de la finance, des opérationnels, des RH. Si on met un péage au nombre d'utilisateurs, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est uniquement la taille du périmètre que l'on va couvrir avec la solution.
Donc le prix va dépendre aussi de la solution que vous apportez, c'est ça ?
Le prix dépend de la taille et de l'impact qu'on aura sur l'entreprise.
Il y a une question qui est très importante, qui préoccupe aujourd'hui les salariés, c'est de la protection des données. Vous utilisez cette donnée. Comment on garantit que derrière, les informations sur tel ou tel employé ne vont pas fuiter, sortir ?
Alors c'est un excellent point, en plus avec la RGPD.
Oui.
On a ce que je pense être aussi une chance, qui est de protéger la vie privée des gens. On travaille dans des univers très réglementés, la banque, la pharma, la défense. Vous doutez bien que derrière, c'est ultra sécurisé.
Bah oui.
Et donc, nous, on est natifs de cette réforme. On a tout ce qu'il faut d'un point de vue technique et d'un point de vue humain pour empêcher ce type de fuite.
Vous parliez donc des ETI, des grands groupes. C'est une solution qui est moins pertinente pour des TPE, PME, c'est ça ? C'est pour ça que vous regardez plutôt les grosses boîtes ?
Alors, ce n'est pas que le besoin n'existe pas pour les TPE et les PME. C'est que la maturité pour planifier n'est pas forcément présente. Et donc, on préfère aujourd'hui se consacrer sur les entreprises de 5000 et plus, on va dire.
Merci beaucoup Vincent Barra
d'être beaucoup,
venu
Erwan.
Nous présenter cette solution que vous avez créée, Albert, aujourd'hui dans Happy Boulot. C'est tout pour cette émission. Vous retrouvez Happy Boulot en replay, en podcast. Abonnez-vous pour recevoir tous les nouveaux épisodes. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, on vous souhaite d'être heureux au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.